Nous allons lire d'abord trois extraits. Le premier est donné de La Voix du silence. C'est un ouvrage de Madame Blavatsky, très poétique et qui donne une note de la tradition transhimalayenne et bouddhiste. Sois patient, candidat, comme celui qui ne craint pas l'échec, ne courtise pas le succès. Fixe le regard de ton âme sur l'étoile dont tu es un rayon, l'étoile flamboyante qui brille dans les profondeurs sans lumière du toujours-être, les champs illimités de l'inconnu. Le deuxième extrait, extrait de la Bhagavad Gita, au chapitre 18, verset 61. Il y a dans le cœur de chaque créature, ô Arjuna, le maître Ishvara, qui, par son pouvoir magique, cause la rotation de toutes les créatures sur la roue universelle du temps. Prends refuge en lui seul, ô fils de Bharata, et de toute ton âme. Par sa grâce, tu obtiendras le bonheur suprême, le lieu éternel. Le troisième extrait est tiré des aphorismes du yoga de Patanjali, qui est un autre livre de la tradition hindoue, comme la Bhagavad Gita. Et là, il y a un aphorisme, le 23 du premier livre, qui dit « L'état de méditation abstraite peut être atteint par une profonde dévotion envers l'Esprit suprême, considéré dans sa manifestation compréhensible comme Ishvara. Il est dit que cette profonde dévotion est un moyen prééminent d'atteindre à la méditation abstraite et à ses fruits. Ishvara est l'esprit dans le corps. »
Ami, le sujet qui nous intéresse ce soir, le Dieu intérieur, va nous amener à couvrir un certain nombre de thèmes connexes et peut-être à revoir certaines notions, à approfondir à la lumière de la théosophie certaines choses qui sont peut-être parfois un peu métaphysiques et peut-être difficiles à aborder sans une certaine clarté d'esprit. On va parler bien sûr de la notion de Dieu, du divin, ce que la théosophie entend par ça. Le divin intérieur, pourquoi ? On va parler aussi de l'implication, et il y a beaucoup de choses, on s'appuiera sur la clé de la théosophie, à propos de ce qu'on appelle la prière, comment les théosophes considèrent la prière. On va avoir aussi une discussion, et ça c'est important, par rapport à la perspective métaphysique de ce qu'est l'homme dans sa nature profonde, et des liens avec l'univers, on va parler des trois lignes d'évolution et de voir les implications par rapport à cette idée du Dieu à l'intérieur, de ce que Mme Levesky appelle l'homme intérieur. On parlera du veilleur silencieux, on parlera des Dhyani Bouddha, on parlera de l'étincelle qui est suspendue à la flamme, on parlera de cette idée de tuer cela, on parlera aussi, si on a le temps, de la différence qu'il y a entre la monade et le principe Atma. Est-ce que c'est la même chose? Il y a beaucoup d'éléments, en particulier dans la doctrine secrète, qui nous amènent à réfléchir. Les réponses ne sont pas directes et faciles, mais c'est une incitation, effectivement, à voir un peu les choses sous une perspective différente. On nous a parlé dans la lecture de La Voix du silence de l'étoile, dont on est un rayon, par rapport à l'entité humaine, l'ange. On va parler de Ishvara, on va parler donc de ce Père qui est dans le secret, qu'on retrouve par exemple dans le contexte de l'Évangile. On parlera aussi des triades, on parlera de la filiation, on parlera de ce stade très important dans l'histoire de l'humanité qui est l'éveil de l'intelligence, mais avec peut-être un distinguo à faire par rapport aux racines de la monade humaine, etc. Donc en fait, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés autour de cette question du Dieu intérieur, du divin à l'intérieur. Avant d'aborder les choses sous l'angle que Mme Levesky aborde dans la clé de la théosophie, on va juste faire une petite lecture. C'est important quand même d'illustrer le thème qui est extraite d'Isis dévoilée, le premier ouvrage qu'elle a écrit en 1877, dans cette espèce de préface, de préliminaire qui s'appelle « Avant le voile », il y a cette idée sur la compréhension intérieure de ce qu'est l'expérience mystique du divin. Elle dit « L'idée de Dieu que l'homme peut se faire est cette image de lumière aveuglante qu'il voit réfléchie dans le miroir concave de sa propre âme. Et ce n'est pas, à vrai dire, Dieu, mais c'est sa réflexion qu'il voit dans le miroir concave de son âme. Sa gloire, c'est-à-dire la gloire au sens que les anciens donnaient, c'est-à-dire c'est la lumière qui émane de cet aspect spirituel, sa gloire, bien sûr, est là, mais c'est la lumière de son propre esprit que l'homme voit et qui est la seule chose qu'il est capable de voir, en fait, d'observer. Plus le miroir est clair, plus brillante sera l'image divine. On pense à l'image divine, c'est le mot ogoeides, en fait, qu'on trouve ailleurs dans la théosophie, mais qui veut dire, eides, c'est l'image qui est dorée, divine ou brillante. Dans cette expérience, à ce moment-là, le monde extérieur ne peut pas être vu simultanément. Ça veut dire que la conscience est centrée sur les plans intérieurs. Elle n'est pas témoin, donc elle s'est abstraite. C'est-à-dire, c'est la démarche, si on veut, de la méditation. Elle ne peut pas en même temps voir le monde extérieur et voir cette expérience du divin, de la lumière de son propre esprit réfléchie dans son miroir concave. Elle dit, pour le yogi dans son expérience extatique, ou alors le voyant éclairé, illuminé, l'esprit brillera comme la lumière en plein midi. Par contre, pour la victime de ces hommes qui sont piégés par les attractions terrestres, en fait, parce qu'elle dit les attractions terrestres, la brillance de cette lumière aura disparu, car le miroir est obscurci et il est souillé par la matière. Donc on voit cette opposition et la nécessité, bien sûr, par rapport à cette expérience mystique, de s'abstraire et d'aller chercher la lumière spirituelle là où elle se trouve. Alors, de tels hommes qui sont effectivement dans ces raies de l'attraction de la matière vont nier l'existence de leur Dieu, de cette dimension, ce divin intérieur, et ils voudraient priver évidemment l'humanité de toute âme, c'est-à-dire ils se sont fermés dans un matérialisme patent. Alors voilà, ça c'était un peu une introduction, parce que bon, Mme Reski développe tous ces thèmes dans Isis dévoilée. On va aborder maintenant la question à travers la clé de la théosophie. Bon, il y a beaucoup de choses à dire ce soir, mais la clé de la théosophie est un ouvrage que Mme Reski a écrit pour permettre une compréhension plus facile des concepts. Elle dit que ça n'est pas pour le mental obtus qui ne veut pas réfléchir, les concepts en soi sont difficiles, mais il faut effectivement faire cet effort. Alors, il y a une section qui s'appelle « Est-il nécessaire de prier ?» Elle enchaîne après avoir parlé de cette idée de Dieu, du divin dans la théosophie. Alors, on va juste faire un retour en arrière et dire ce que c'est que le divin pour la théosophie. Le divin, il faut le voir sous deux angles, en fait, deux perspectives. Il y a le divin, on pourrait dire, qui est la racine absolue de tout ce qui existe. À ce moment-là, on en parle comme un principe absolu, éternel, omniprésent, inchangeable, etc. C'est ce que les hindous appellent « tat », cela, c'est-à-dire c'est l'impersonnalité dans son essence, c'est-à-dire c'est à la fois la conscience et l'inconscience. Ça, c'est le divin, si on veut, posé comme un principe, comme un postulat, à partir duquel on peut comprendre que tout ce qu'on voit dans le monde visible, dans les plans invisibles aussi, tout ça n'est que des expressions, des manifestations, et que le divin, le principe divin, ne peut pas avoir de relation en tant que relation d'échange direct avec ceux qui sont, on va dire, les entités ou les... ce qu'on peut appeler les âmes, ou ce qu'on peut appeler tous ces êtres qui sont des formes de vie qui sont prises dans ce monde manifesté. D'un point de vue métaphysique, il faut dire, il y a l'absolu, sur lequel on ne peut rien dire. Et puis, il y a ce qui est en interaction dans les principes visibles, dans le monde manifesté, qui sont ces êtres à tous les niveaux. Et c'est seulement des relations, on pourrait dire, qu'il y a entre ces êtres, mais il n'y a pas de relation possible entre un être et l'absolu. C'est un non-sens métaphysique. Donc ça veut dire que, quand on parle du divin, le divin intérieur, on ne parle pas de l'absolu. On parle de ce qui est la racine de l'âme, et c'est là où il va falloir rentrer dans des concepts un peu métaphysiques, un peu ardus, mais c'est nécessairement une espèce de bipolarité qu'il faut accepter. Alors, qu'est-ce que dit Madame Moravsky au sujet du divin? Et la section s'appelle « Est-ce qu'il est nécessaire de prier ?» Elle dit « Nous ne prions pas ». Bon, donc un peu catégorique, évidemment. Elle dit « Nous ne prions pas ». Pourquoi? Parce que l'absolu, le principe, on vient de le dire, n'a pas d'oreille. Il ne peut pas entendre. Donc, elle dit « Les théosophes doivent agir ». Et on va voir après comment ça se traduit et qu'est-ce que ça veut dire, évidemment. C'est un petit peu plus subtil que simplement ça, mais ça serait pure peine perdue de passer du temps à énoncer des prières qui seraient des demandes à l'égard d'un absolu qui n'a pas d'oreille pour entendre et qui est complètement inconnaissable. Il ne peut pas y avoir de relation autre qu'entre ces différentes parties entre elles, mais il est non-existant ce qui concerne une quelconque relation limitée. Donc en fait, pas de dialogue avec l'absolu. Ça, c'est clair. Alors, maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un autre genre de prière? Alors, si vous ne priez pas l'absolu, est-ce qu'il n'y a pas un autre genre de prière? Oui, elle dit oui. Cette prière, elle lui donne un nom, elle a inventé un nom pour les besoins de la cause, elle appelle ça la prière volonté. Alors, la prière volonté, c'est plutôt, elle dit, un commandement intérieur qu'une pétition. Une pétition, ça veut dire c'est une demande. Une pétition, c'est... On va faire une demande à quelqu'un de différent de nous-mêmes, on va lui dire ce qu'il faut qu'il fasse, qu'il s'occupe de nous, qu'il nous donne, etc. Non, c'est pas ça. En fait, elle dit à qui vous vous adressez, cette prière volonté, donc, prière volonté, elle dit, ben, c'est notre Père qui est dans les cieux. Ça rappelle évidemment l'Évangile, c'est dans Matthieu. Et c'est notre Père qui est dans les cieux, donc... Là, on commence déjà à rentrer dans les différents niveaux de la métaphysique théosophique, c'est-à-dire qu'il y a un enracinement de toutes les âmes humaines dans un niveau qui est là appelé notre Père, et qu'elle va qualifier aussi. Alors, elle dit, essayez de comprendre ce qui est dit dans Matthieu, le Père qui est dans le secret. Ça n'est pas un Dieu extra-cosmique, mais... Ce Père, il est dans l'homme lui-même. C'est-à-dire, en fait, c'est, si on veut, cette façon de poser la question de Dieu intérieur, c'est s'intéresser à tous les niveaux de l'échelle, on va dire, de constitution de l'homme qui relie la conscience incarnée jusqu'au plus haut plan qu'on appelle l'un, qui est le soi un et universel. Et donc, il faut imaginer qu'il y a des niveaux intermédiaires et que les choses ne sont pas aussi simples, on ne peut pas les résumer, mais néanmoins, il y a quand même des repères qui sont donnés en théosophie. Alors, elle dit qu'on ne fait pas de l'homme Dieu, mais, en fait, dites Dieu, mais non pas un Dieu. Pour Madame Levasky, l'homme intérieur est le seul Dieu que nous puissions connaître. Alors, l'homme intérieur, ça veut dire quoi? L'homme intérieur, c'est justement... Cette filiation qu'il y a, on parle dans certains endroits de rayon en rayon, c'est-à-dire en fait il y a des plans, parce qu'il y a sept plans cosmiques qui font que nous sommes sur le dernier plan, qui est le plan objectif, mais il y a des plans intérieurs, et il y a une filiation qui s'illustre, on va essayer de donner avec le temps qui reste un peu plus d'illustration, mais bien sûr ce qu'elle appelle l'homme intérieur, c'est le seul Dieu que nous puissions connaître. Donc c'est pas, encore une fois, c'est pas l'absolu, parce que l'absolu, on en est pétri, c'est comme l'espace, qu'il est là, qu'il y ait des choses ou qu'il n'y ait pas, qu'il y ait une pièce ou qu'il n'y ait pas de pièce. Elle dit, il faut accorder le principe que ce principe divin, il est universellement présent, donc il est partout, donc il est aussi à l'intérieur de l'homme. Il faut peut-être juste s'expliquer sur cette notion d'intérieur et d'extérieur. Parce que l'extérieur, c'est nos yeux physiques qui nous construisent une idée, voilà, ça c'est l'extérieur. Vous voyez, moi je suis là, c'est mon corps, et cette plante, elle est à l'extérieur de moi. Ça c'est une idée que notre intelligence fabrique en prenant en compte le concept de l'espace et de la matérialité des objets, etc. Sur les plans intérieurs, les choses sont un peu différentes. L'intérieur, c'est ce qui est en rapport avec, on va dire, d'affinité. On va prendre un exemple, mais si vous considérez le corps humain avec ses cellules, avec ses organes, la relation qu'il y a entre les cellules d'un organe, entre les organes entre eux, avec le cerveau, etc., ben d'une certaine manière, c'est l'intérieur par rapport à l'extérieur du corps, c'est-à-dire il y a des relations intimes qui existent et qui sont vitales. Alors, dans le cas de l'homme intérieur, c'est par là qu'il faut chercher quelle est l'origine de la conscience de l'homme, quelle est l'origine de son pouvoir de vitalité, de sa volonté, quelle est l'origine de l'esprit dans l'homme, quelle est l'origine aussi de la matière, parce qu'à un moment donné, dans les schémas de tous les grands systèmes, dans toutes les grandes traditions, on trouve au départ l'idée du père-mère, père-mère, c'est-à-dire l'esprit-matière, qui fait un, qui est une unité, c'est l'un. Et à partir de l'un, apparaissent des réflexions, il y a une différenciation sur sept plans et des réflexions jusqu'à ce qu'on arrive à ce plan-là. Donc quand on dit l'intérieur, c'est essayer de remonter cette échelle de filiation. Alors la méditation semble, par exemple, comme on a dit à propos du yogi, etc., effectivement une façon d'essayer de retrouver cette expérience du Dieu intérieur, voilà, de l'expérience. Alors elle dit, c'est quoi ce divin? Ce Père qui est dans les cieux ou dans le ciel, enfin bon bref, elle dit, c'est une essence déifique que nous sentons exister au-dedans de nous, dans notre cœur, dans notre conscience spirituelle, et qui n'a aucun rapport avec l'anthropomorphisme. Alors, c'est une essence déifique. Essence, c'est pas un être, c'est une essence. Une essence, c'est ce qui permet aux êtres d'exister, et c'est universel. Et déifique, le mot veut dire en latin, c'est ce qui est capable de faire un dieu, fabriquer un dieu déifique. Donc c'est une essence qui va permettre la transformation de l'homme en tant que principe actif en un dieu d'une certaine manière. Et c'est ce que les anciens appelaient les dieux dans l'axiome kabbalistique, l'homme devient un dieu, un deva, etc. C'est-à-dire, c'est l'échelle d'évolution qui est au-delà du stade humain, il y a ce stade divin. Mais ça signifie aussi la capacité de maîtriser tous les pouvoirs de la nature qui deviennent au service de l'être, qui est capable d'accomplir des choses qui apparaissent comme des miracles, etc. Cette essence déifique, on sent qu'elle existe au cœur, dans notre cœur, notre conscience spirituelle. Elle n'a aucun rapport avec l'anthropomorphisme. Là, Madame Lebreski souligne un point, évidemment, qui est aussi très important, c'est-à-dire, elle dit que nul théosophe, s'il veut s'attacher à la vérité divine et non à la vérité humaine, c'est-à-dire ne pas projeter des images humaines, mais il ne peut pas dire que ce Dieu qui est dans le secret est à l'écoute de l'homme fini ou de l'essence infinie, ou qu'il en est distinct, parce que tout ça ne fait qu'un. Donc il n'y a pas de différence entre ce Dieu qui est dans le secret et finalement notre conscience, parce que c'est quelque part, il y a un pont, il y a une identité fondamentale en fait. On peut prendre l'idée d'un rayon, on peut dire que notre Atma c'est un rayon qui est inséparable du principe absolu, donc on peut avoir cette image, mais il y a aussi des véhicules qui sont constitués, des entités, des choses qui sont fabriquées à partir des choses qu'on va voir quand on va parler un petit peu tout de suite là des trois lignes d'évolution. Donc elle dit, il faut évidemment éviter de tomber dans l'anthropomorphisme et d'imaginer qu'on va dialoguer avec un être, pas du tout. Alors, ce qu'elle appelle la prière volonté, c'est l'aspiration ardente de notre être, de notre homme intérieur, vers sa source, et qui par un procédé de transmutation spirituelle va transmuter ce qui est le plomb en or, c'est-à-dire, alors dans la symbolique, le plomb, c'est le métal vil qui s'altère, etc. En or, l'or est inaltérable, il est inoxydable, il reste, il garde sa luminosité. On dit dans l'hindouisme que le Brahma se trouve dans l'enveloppe d'or. Donc il y a en nous, au très fond de notre nature, cette dimension qui est là. Cette prière volonté, c'est de la pierre philosophale qui transmute le plomb en or. C'est une essence homogène qui fait que nos aspirations ne peuvent pas être assimilées par ce qui est au-delà, nous revient sous forme d'une force active ou créatrice qui produit des effets selon notre désir. Elle dit « le pouvoir de la volonté devient un pouvoir vivant ». Donc ça veut dire qu'il y a une transmutation complète de l'être. Donc ces grands yogis, ces sages, enfin, quels que soient les noms, les traditions, que ce soit dans le soufisme, que ce soit dans les religions, etc., toutes les grandes religions de l'humanité qui ont une base philosophique profonde, il y a la présence de ça et de ce chemin spirituel. Dans la prière de Jésus qu'on trouve dans Matthieu, c'est que ta volonté soit faite. Là, il s'agit d'être à l'unisson de cette volonté spirituelle universelle. Elle dit, il est possible d'être à l'unisson avec ce Père qui est dans le secret. Pendant des moments de béatitude extatique, il est possible de parvenir à une union étroite de notre âme supérieure avec sa source, son origine, qui est l'essence universelle. Notre âme supérieure est en union étroite avec l'essence universelle qui est sa source. Alors c'est quoi ? Ben, on va en reparler. C'est ce qu'on appelle l'Avalokiteshvara chez les bouddhistes. C'est ce qu'on appelle Alaya aussi, c'est l'âme universelle du monde. C'est tout ce qui est, si on veut, la collectivité, la synthèse des Dhyani Bouddha. Elle dit, elle est attirée vers son origine et son centre. Cet état s'appelle pendant la vie le samadhi et après la mort le nirvana. Par contre, elle dit, on refuse d'adresser des prières à des êtres finis et créés, c'est-à-dire des dieux. En fait, les dieux, bon, comme elle cite après la lumière de l'Asie, n'implorez pas les dieux, ils n'ont pas d'oreilles, ils ne peuvent pas vous entendre. Les dieux, c'est des êtres créés, même Brahma va mourir à la fin de la vie de Brahma, un très très grand cycle. Donc les dieux sont des formes de vie qui appartiennent au monde manifesté. Par contre, il faut trouver en quoi correspond cette essence divine en nous, qu'elle appelle le principe Christos, ou la triade Atma-Buddhi-Manas, le soi, qui est et cette trinité qui est représentée par exemple par le Père, le Saint-Esprit et le Fils dans la tradition, c'est-à-dire l'esprit abstrait, l'esprit différencié et l'esprit incarné. On plonge maintenant dans la métaphysique, on va aller un petit peu plus profondément. Dans la théosophie, il y a pas mal de choses, mais tout à l'heure, on nous a lu un passage de la voie du silence, de fixer le regard sur l'âme dont on est un rayon. Pas le rayon, mais un rayon, c'est-à-dire il y a beaucoup de rayons. On est tous des rayons d'une âme. Si on étudie les nombreuses pages qu'il y a consacrées à ça, on peut regarder par exemple ce qui est dit dans la voie du silence pour comprendre en fait ce que représente cette étoile. Alors d'abord, il est dit dans la note, d'après l'enseignement ésotérique, c'est dans le texte, c'est la note du texte qui a été lu tout à l'heure, chaque ego spirituel, c'est-à-dire la base qui collecte l'information de vie en vie et qui est la racine de notre intelligence consciente, on va y revenir, est un rayon d'un esprit planétaire. L'esprit planétaire, ce sont ces hiérarchies qui sont au nombre de 7 hiérarchies spirituelles et qui, dans leur synthèse, font ce que les bouddhistes appellent Avalokiteshvara, c'est-à-dire l'Ishvara, qui est celui qu'on voit à l'intérieur. Dans la doctrine secrète, bon, il y a beaucoup de références, mais elle explique la signification de ce terme Avalokiteshvara. Ishvara, c'est le Seigneur, c'est le Maître, mais en fait, pourquoi Avalokita, qui est le passif, celui qui est vu, ça veut dire littéralement, en termes grammaticaux, c'est un passif, parce qu'effectivement, elle dit, dans la doctrine secrète, elle le dit aussi ailleurs, que dans notre conscience, se centre dans l'âme spirituelle, et à ce moment-là, ce qu'on appelle Bouddhi, qui est le véhicule, si on veut, de l'Atma, du rayon universel qui est en nous, qui nous illumine, à ce moment-là, l'être perçoit cet Avalokiteshvara et accède à la libération. C'est dit à plusieurs endroits, en particulier dans l'introduction de la doctrine secrète. C'est dit aussi à propos de l'explication du mot Avalokiteshvara. Donc ça veut dire que la vision intérieure, la perception dont Mme Lasky a parlé, est une vision libératrice. Et qu'il y a la perception d'une dimension universelle qui est la synthèse. Alors bien sûr, il y a une âme, ça s'est développé, et on va rentrer un petit peu dans la métaphysique théosophique, mais on va essayer de serrer un peu les choses. Pour la théosophie, il y a trois lignes d'évolution. Trois lignes. On va partir du plus simple, qui est plus facile à comprendre, la ligne qu'on appelle astrale et physique, qui est responsable de la forme et de l'organisation, et qui vient de l'héritage des formes physiques sur les planètes antérieures, en particulier la Lune, etc., qui va être responsable de la forme que l'homme va utiliser, qui progressivement va servir de base et qui va être améliorée. Il y a au sommet ce qu'on appelle la ligne monadique, qui là correspond au pèlerin éternel et qui est cette relation qu'il y a, dont elle a parlé ici de Christos, qui est un principe universel qui nous relie, c'est-à-dire qu'il y a en nous un foyer d'évolution monadique qui va engranger des expériences. Entre les deux, il y a ce qui est en rapport avec la dimension intellectuelle qu'on appelle dans la doctrine secrète les Manasadhyani ou les Agnishvata. C'est une dimension qui va permettre à la conscience réfléchie d'apparaître à un moment donné. Mais ce que la théosophie nous invite, me semble nous suggérer quand on étudie ces textes, c'est de voir qu'il y a deux choses dans l'homme. Il y a ce qui est au départ les monades qui vont commencer le grand cycle dans les rondes, puisque là, on en est à la quatrième ronde, enfin, le quatrième grand cycle sur la Terre, on a passé le milieu, mais nous sommes des monades qui, au départ, étaient destinées à devenir humaines, soit qui étaient déjà humaines dans des expériences passées, soit qui étaient destinées à devenir humaines. Et ces monades-là sont des triades, dit la doctrine secrète, des triades, des émanations de ces derniers Bouddhas. Alors là, on rejoint le langage de la voix du silence, on rejoint le langage de l'évangile avec l'idée du Père. Madame Lasky dit, c'est quoi une monade dans ses pages, par exemple, de 571-72. Elle dit, en fait, la monade, même si on admet que l'atma est identique avec l'esprit universel, il faut prendre en considération la monade, qui est une étincelle qui jaillit en millions de rayons des sept aspects primitifs qui sont les sept, en fait, les sept derniers Bouddhas dans leur état primitif. La monade, c'est donc une étincelle qui émane de ce rayon incréé, c'est un mystère. Alors, on ne va pas censer, évidemment, expliquer ce mystère, ce n'est pas le point. Mais c'est pour dire que là, à ce niveau-là, quand les monades qui n'ont pas encore la conscience réfléchie éveillée font leur parcours évolutif dans ces trois rondes qui précèdent la ronde dans laquelle l'intelligence humaine va être éveillée, elles sont déjà préparées. Elles ont déjà potentiellement, parce qu'elles sont rattachées à ces derniers Bouddhas, ce sont des émanations. Et émanations dans la doctrine secrète, enfin c'est expliqué dans les transactions, hein, transactions de la Skidosh. Le terme émanation veut dire qu'il y a un lien continu, constant, qui n'est pas coupé, mais qui est comme un espèce de fil. Alors on trouve cette image, bon il faudrait multiplier les exemples, mais cette étincelle est comme suspendue à la flamme, Atma Bouddhi, c'est-à-dire le pèlerin éternel, ou si on veut, le Dhyani Bouddha, est suspendue comme une étincelle à la flamme, par le fil de la vie. Donc il y a toujours un fil qui la relie, ce fil c'est dans les deux sens, c'est une énergie, la conscience, la volonté qui vient, parce que la volonté c'est la force de l'esprit en action, et en même temps c'est la remontée dans quelque part qui va être le réceptacle de l'expérience qui est faite en tant qu'âme humaine. Alors c'est pour ça qu'on dit c'est Atma Bouddhi avec les accrétions ou avec les additions que l'expérience humaine apporte. Les termes sont intéressants parce qu'elle dit que c'est l'étoile qui est chaque entité humaine est née sous une étoile particulière. Cette étoile, elle l'identifie avec un Dhyani Bouddha. Elle l'appelle aussi, ça peut être simplement une étoile qui guide suivant la proximité ou qui est simplement un ange qui préside à la destinée et qui est une partie de notre propre essence. C'est-à-dire que notre essence vient et dérive de ce Dhyani Bouddha. Alors, quand on dit ce Dhyani Bouddha, ce n'est pas un Dhyani Bouddha en tant que tel. Elle dit, il y a des endroits, elle dit en fait, il y a 7 classes dans l'humanité et ils appartiennent à la même catégorie ou à la même classe. Donc en fait, il ne faut pas individualiser un Dhyani Bouddha, une âme humaine, etc. C'est une classe d'être, ce sont des esprits planétaires. Il y a 7 catégories ou 7 classes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'éveil de l'intelligence, alors, dans cette histoire? Que viennent faire ces Manasa Dhyani ou ces Agnishvata? Alors, si effectivement les Dhyani Bouddha représentent l'amorce de cette triade Atma Buddhi Manas, il y a bien sûr un rôle particulier qui fait qu'au moment du milieu de la troisième race sur cette terre, il y a donc en gros 18 millions d'années plus que ça a duré un peu après, il y a eu évidemment l'intervention de quoi? Ben justement, alors c'est là où il faut regarder un peu les textes, il faut les éplucher à la loupe. Elle dit, le mental humain doit cet éveil à une portion d'une essence déjà différenciée qui va faire que on n'a pas là ces entités qui étaient en réserve dans l'aura de la Terre, elles étaient en attente, jusqu'à ce qu'arrive le moment de cet éveil de l'intelligence, et là, elle s'incarne, entre guillemets, alors plus ou moins suivant la catégorie, parce qu'il y a 7, ou au moins 7 niveaux d'incarnation, il y a ceux qui deviennent des grands sages, etc., et puis il y en a d'autres qui reçoivent qu'une étincelle, etc. Mais, Madame Vassy dit, il ne faut pas imaginer que ce sont deux monades qui sont dans la même entité. C'est un rayon intensifié, elle dit, c'est l'entrée dans une pièce obscure à travers la même ouverture d'un rayon de lumière solaire qui suit un autre, ne constitue pas deux rayons, mais un rayon intensifié. Donc là, on a une clé pour essayer de comprendre un peu. Bon, c'est pas le fin mot de l'histoire, mais bon, il y a d'autres passages qui montrent que il y a une double polarité qui est là. Elle dit, par exemple, en citant Platon, c'est le même et l'autre. Elle dit que ce qu'on appelle le soi supérieur, c'est les principes de la duade, Atma Buddhi, avec ce qui a été apporté du manas à travers les expériences de la vie, par les efforts individuels, et qui fait que ça devient le soi supérieur propre. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi le soi supérieur? C'est la capacité à manœuvrer, à utiliser les forces de l'universel. Donc, on pourrait dire en résumé, parce que bon, on pourrait continuer, il faut laisser la place maintenant aux questions, hein, bientôt, mais les choses, effectivement, sont plus complexes. Il y a ces trois lignes d'évolution qui sont imbriquées, elle dit, à chaque niveau, bon, on pourrait citer le passage, hein, mais bon, c'est dans la doctrine secrète, dans le premier volume, ces trois lignes d'évolution sont imbriquées et l'homme est la synthèse de ces trois lignes. Il faut voir aussi qu'il y a des étapes et qu'il y a un processus évolutif qui se fait aux trois niveaux. Par exemple, la matière, ce qu'on dit être la ligne physique astrale, ben on dit aujourd'hui que la matière a appris et l'accouchement, ça c'est Judge qui l'écrit, l'accouchement se fait plus vite. Donc ça veut dire qu'il y a un apprentissage de ces formes de vie qui sont à ce niveau-là. Donc il y a un autre apprentissage au niveau, bien évidemment, de l'intelligence, jusqu'à ce que l'âme humaine soit capable de fusionner avec ce qui est au-dessus, et qui est cette triade Atma Buddhi Manas, et qui permet de franchir l'étape. Alors, on pourrait dire en conclusion, il faut revenir à cette idée d'Avalokiteshvara, ou si on veut, d'Ishvara. Dans les aphorismes de Patanjali, il est dit, bon, c'est l'aphorisme 23 qui a été lu, l'état de méditation abstraite peut être obtenu par une dévotion profonde à l'égard de l'Esprit suprême sous sa forme compréhensible en tant que Ishvara. Ishvara ou Avalokiteshvara, c'est pareil. Simplement, les bouddhistes utilisent l'expression Avalokiteshvara parce qu'il y a cette idée d'expérience mystique, de vision à un moment donné. Mais, je dis, c'est cette Ishvara, c'est l'âme suprême. Donc, l'homme, s'il a un objectif à atteindre dans sa démarche intérieure de père qui est dans le secret, c'est cette essence déifique qui va lui permettre de se relier à ce qui est l'un universel, ou si on veut, le soi un universel. Soit on parle de l'absolu, et là on a fini d'en parler, parce qu'on ne peut rien en dire, soit on parle effectivement du monde manifesté et d'un progrès spirituel, et ce progrès va effectivement prendre comme objectif qu'il faut essayer d'atteindre cette Ishvara, ou voilà. Donc, Krishna dit à la fin de la Gita, on l'a vu, prends refuge en lui seul, tu atteindras le lieu suprême, le bonheur éternel.